Bon. Chers amis, puisque vous êtes réunis aujourd'hui, je vais essayer de couvrir de ma voix le tumulte de l'assemblée nombreuse qui est venue s'assembler ici aujourd'hui. Et vous m'avez demandé de vous entretenir d'un sujet assez intéressant et disons joyeux, la mort. La mort. Vous savez, il y a une expression en français qui s'appelle « regarder la mort en face ». C'est considéré comme, un effort particulier parce que la plupart des hommes ont une réaction de répulsion par rapport à la mort. On préfère ne pas y penser. En fait, c'est un vrai problème de ne pas penser à la mort parce que le meilleur moyen de s'y préparer, de la confronter comme il faut, justement, c'est d'y penser. Ne vous en faites pas. La mort est inévitable, donc ce n'est pas la peine d'essayer de l'esquiver. Deuxièmement, c'est une expérience qui ne se produit qu'une seule fois dans la vie. Et donc, c'est particulièrement passionnant. Aucun des vivants ne sait ce que c'est. Donc, on peut dire que quand on y arrive, c'est un privilège de savoir comment ça se passe. C'est intéressant quand même de savoir. Comme de toute manière, nous sommes assurés d'y arriver, c'est donc pas la peine de se presser. D'accord ? Donc, on peut toujours repousser ça autant qu'on veut, parce que de toute manière, ça arrivera. Donc, c'est pas la peine de se précipiter, parce qu'après, quand on l'a déjà fait, ben, on ne peut plus rien faire. Donc, il vaut mieux le faire le plus tard possible, mais ce n'est pas une raison d'en avoir peur. Mais non, le cours, c'est sur la mort. D'accord ? Bon. Il y a, disons, sur le plan existentiel, quelque chose de terriblement révoltant dans l'idée de mourir, et c'est peut-être ça c'est la raison de la répulsion que les gens ressentent par rapport à ça, c'est qu'il y a ici un soufflet adressé à l'être le plus noble de la création. Nous sommes les hommes. L'homme est créé, comme dit la Torah, à l'image de Dieu. Alors comment se fait-il qu'un être créé à l'image de Dieu serait susceptible de la dégradation qu'implique la mort? Vous ne vous rendez pas compte, c'est vraiment un scandale. Si on réfléchit bien, il y a beaucoup de choses scandaleuses par rapport à la vie de l'homme. Par exemple, le fait de manger. Moi qui suis le sommet de la création, je suis le couronnement de tout ce qu'il y a, je dépends d'un morceau de pain. Vous vous rendez compte? Et si ce morceau de pain me manque, eh bien, je ne peux plus continuer. S'il n'y a pas une bouffée d'air, un peu d'eau, je ne peux pas continuer à vivre. C'est quelque chose d'absolument révoltant si on y réfléchit vraiment très sérieusement. Il y a ici un problème. Donc on peut dire, d'un certain point de vue, la mort est un scandale. Sartre disait, la mort est un mur. C'est-à-dire, on arrive, voilà, on est coincé. C'est un mur. Et c'est, disons, pour une conscience monothéiste, hein, c'est intolérable. C'est la raison même pour laquelle le judaïsme se présente comme une réparation du problème de la mort. C'est ça que la Torah dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Uvacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Donc il y a une préférence accordée à la vie contre la mort. Ça c'est un point très important. Il y a un texte dans le livre de Devarim à ce propos surprenant. Je reprends ici, c'est dans Devarim, dans la paracha de Vaïtranan, au chapitre d'Alet. Si je ne me trompe, c'est probablement au verset Kaf ou quelque chose dans ces eaux-là. J'ai un moyen de régler ce doute en consultant le texte. Voilà. Et ici le livre de Devarim. Et je reprends ici au chapitre d'Alet, au verset... Ben alors, ouais, je me suis complètement planté. C'est au chapitre 5, au verset Kaf. Ça, le verset Kaf, je ne me suis pas trompé, mais c'est le chapitre que je m'étais trompé. Vayehi keshomachem et akol mitoch achosher. Ce fut lorsque vous entendirent la voix des profondeurs des ténèbres. Ve'ahar bo'er ba'esh. Lorsque la montagne flambait dans le feu. Vatikrevun elai. Et vous vous approchèrent de moi. Kol raché shifterem viziknerem. Tous les chefs de vos tribus et vos anciens. Vatomeru. Et vous me dire. Hen, voilà. Eranu Hashem Elohenu, et kevodo ved godlo. Que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Ved kolo shama'anu mitoch ha'esh. Et sa voix, nous l'avons entendue de l'intérieur du feu. Hayom ha'zera'inu, en ce jour nous avons vu. Ki yedaber Elohim et ha'adam, vahay, que Dieu parle avec l'homme, et qu'il reste vivant. Ve'ata, et présentement, l'amanamut, pourquoi mourrions-nous? C'est-à-dire, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore?
C'est, quand on meurt, en fait, on meurt juste pour recommencer des familles.
Mais c'est moi qui explique là maintenant. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit autre chose. La question de savoir, qu'est-ce que nos ancêtres ont pensé avant la révélation? Et qu'est-ce que la révélation leur a appris? Ils ont dit, maintenant que nous avons été témoins de la révélation, nous ne voulons plus mourir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous pensions qu'il était préférable de mourir. Mais maintenant que nous avons vu... Et pourquoi est-ce qu'ils pensaient qu'il était préférable de mourir? Parce que nous étions, comme tout le monde, des mystiques. C'est-à-dire, l'homme sent qu'il est emprisonné dans le monde de la matière, et qu'il préfère, pour rencontrer Dieu, mourir. N'est-ce pas? Oui, c'est le contact est possible à travers la mort. Mais maintenant, nous avons découvert que le contact est possible à travers la vie. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien de mourir. D'accord? C'est pour ça que la Torah, dans la paracha de Nitzavim, de Vayeler, pardon, nous dit « Achaim v'amavet natati lefanecha » « J'ai mis la mort, j'ai mis la vie et la mort devant toi » Et en temps normal, si tu étais normal, eh bien tu choisirais évidemment la mort. Ou vaharta bachaim, mais moi je t'ordonne de choisir la vie. Les man tichi ata vezaracha, afin que tu vives toi et ta descendance à la Adama sur la terre que Dieu te donne. C'est-à-dire qu'il y a une préférence du Créateur pour la vie sur terre, à travers les générations et à travers la perpétuation de l'histoire, que la mort. Intéressant. C'est-à-dire que le Créateur est intéressé justement à ce qui est paradoxal, la vie sur Terre. Oui.
Comment les hommes pouvaient être intéressés par se rapprocher de Dieu avant la révélation?
Ah, parce qu'ils avaient une idée de Dieu, il y avait une nostalgie de Dieu. C'est-à-dire, toujours il y a dans la mémoire de l'histoire, il y a la mémoire d'un temps de proximité, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, un truc comme ça. Et donc, il y a une sorte de nostalgie naturelle chez les hommes, qui est le produit de cette antique proximité, et donc un désir de retour. C'est pas vraiment inconscient, c'est conscient. La nostalgie, c'est quelque chose de conscient. C'est ce qu'on appelle la nostalgie métaphysique. Ça existe. Ils n'ont pas expérimenté eux, mais ils avaient la mémoire de cette expérience chez leurs ancêtres. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la proximité originelle. C'est-à-dire que l'homme a une trace, quelque part, d'une proximité antique. Parfois, on réfère cette proximité au temps de la gestation. Oui, par exemple, dans les Midrashim, on nous dit que l'homme, dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. D'accord? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une fois qu'il vient ici, il oublie. Donc, c'est bien embêtant, on voudrait se rappeler. D'accord? Chez Platon, ça s'appelle la réminiscence. D'accord? Et donc, les hommes ont un désir de ce retour. Et c'est ce qui entraîne des mouvements mystiques, tels que, par exemple, un truc le plus populaire de nos jours, le bouddhisme. Qui développe cette nostalgie au point du désir de la néantisation de l'homme. D'accord? Et donc, il y a un idéal de mort qui est refusé par la tradition de la révélation, c'est chez les Juifs. C'est fini avec ce verre, ça me casse les pieds. Bon, et donc, ça c'est un premier point important, parce que nous allons parler de la mort, il faut savoir de quoi il s'agit. Ça explique un problème qui se pose quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible, il est souvent question de la mort, mais il est jamais, ou presque, en tout cas que par allusion, question de la vie après la mort. Ça ne veut pas dire que l'éternité de l'âme, la vie après la mort, était niée par nos ancêtres, contrairement à ce que pensent certains chercheurs. Et c'est une évidence que nos ancêtres, les anciens Hébreux, savaient qu'il y avait une vie après la mort, mais on peut dire, d'une certaine manière, ça ne les intéressait pas. Ils s'en fichaient pas. Oui, ils s'en fichaient pas mal, en fait, de savoir ce qui se passe après. Tandis que chez nos ancêtres, à partir de l'époque du deuxième temple, c'est exactement le contraire. On te parle, à n'en plus finir, du Olam Haba, du monde à venir. C'est-à-dire que le centre de gravité de l'intérêt des Hébreux a changé. Et c'est-à-dire que avant, si on demandait par exemple à un Hébreu, Monsieur l'Hébreu, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je laboure mon champ, tu vois pas, non ? Bon, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu laboures ton champ ? Ben, parce que je veux qu'il y ait de la récolte et que cette récolte soit abondante. Ah oui ? Ah, c'est intéressant. Et c'est quoi ta grande espérance ? Ben voilà, ma grande espérance, c'est qu'il y ait beaucoup de récolte. Et que je puisse amener la dîme au Beth Amikdash. J'espère que les sacrifices seront bien agréés par Dieu, que le roi d'Israël gagnera la guerre, et que la pluie tombe en son temps, et que j'ai des enfants pour cultiver ma terre après moi. Ah, intéressant. Est-ce que vous avez le temps d'encore une question ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pensé à ce qui vous arrivera à vous personnellement après votre mort ? À moi, après ma mort ? Pas vraiment. Vous avez des questions intéressantes. Hein, vous. Bah, vous savez quoi ? J'ai une idée pour vous. Allez voir le prophète. Lui doit avoir des réponses à ça. D'accord ? C'est-à-dire que dans les cercles prophétiques, dans les cercles réservés, ces choses-là étaient étudiées. Mais elles ne faisaient pas partie de la conscience immédiate du peuple. Tandis que si vous prenez un bon juif il y a 300 ans, en Pologne, ou au Maroc, ou n'importe où, vous lui dites « qu'est-ce qui se passera un jour ?» Ben, j'ai dit « un jour, j'espère bien avoir ma place, un bon fauteuil au Gan Eden. » Et sur cette terre, sur cette terre, il n'y a rien à en espérer. Bon, ce n'était pas chrétien, c'était la vérité. C'est la vérité était que la vie était tellement intolérable sur terre, avec les Cosaques et avec tout le monde, qu'il valait mieux ne pas trop penser à ce qui se passe sur cette terre, n'est-ce pas ? On raconte qu'un jour, Rabbi Nahum de Tchernobyl est arrivé dans une auberge. Dans une auberge tenue par un juif, évidemment. Et au milieu de la nuit, l'aubergiste entend des cris. Alors, il se précipite dans la chambre de Rabbi Nahum de Tchernobyl et lui dit, « Mais enfin, Rabbi, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Rien du tout, je faisais la prière de Tikkun Hatzot. »« Ah bon, c'est quoi la prière de Tikkun Hatzot ?»« Ben, c'est on prie pour que le Mashiach vienne. » Et Rabbi, qu'est-ce qui se passera lorsque Mashiach viendra ? Eh bien, nous irons tous en Eretz Israël. Ah ! Une seconde, Rabbi, je vais en parler à ma femme. Il va voir sa femme, et la femme dit, le Rabbi crie parce qu'il veut qu'on arrive en Eretz Israël. Il dit, mais si le Mashiach vient et qu'on va en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on va faire avec notre auberge, les poules, les vaches, la bière ? Hein ? Tout ça, ça va pas, non ? Dis au rabbi d'arrêter de prier. Il va voir le rabbi, il dit, ma femme a demandé que vous arrêtez de prier, parce que si le Mashiach vient qui nous prend en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer ? Avec nos vaches, ça. Le rabbi dit, enfin, ça va pas. Tu préfères que les Cosaques viennent, te tuent, toi, violent ta femme, brûlent ton auberge et se prennent la bière et les poules et les vaches ? Je vais demander à ma femme. Il va voir sa femme, il revient après, il dit, rabbi, ma femme et moi, nous vous demandons de continuer à prier que le Mashiach vienne et qu'il emmène les Cosaques en Eretz Israël. Certaines mauvaises langues diront que ça s'est effectivement réalisé, ça a été la prière. Ouais. Quoi ? J'en sais rien. En tout cas, oui. Non, c'est comme du thé sans sucre, par exemple, c'est la même chose. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. Non, non, mais c'est très bien, parce que de toute façon, je ne t'ai pas amené de thé, mais c'est pas grave. Bon, ouais. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, c'est ça. Donc, la vie sur Terre était insupportable à l'époque. Il y avait un grand maître, dont vous avez certainement entendu parler, Rabbi Nachman de Breslav, qui un jour est entré dans le Beth Amidrash. Il a entendu les élèves parler du Olam Haba. Alors, il leur a dit, vous savez, tout le monde dit qu'il y a le Olam Hazeh, le Olam Haba. Le Olam Haba, nous savons que ça existe. parce que nos maîtres nous ont dit qu'il y avait le Olam Haba. Donc nous savons que ça existe. Mais pour le Olam Hazé, il faut une grande émouna pour avoir la foi qu'il y a un endroit où il y a le Olam Hazé. Parce que ici, c'est certainement le Gehinnam, l'enfer. C'est-à-dire que donc, c'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbi Nachman de Breslav, le Olam Hazé ne valait rien. Donc l'espérance d'un juif se tournait vers le Olam Haba. C'est ce qui explique la différence entre l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi et de Rambam. Rambam nous parle tout le temps du Olam Haba comme étant la finalité de la vie de sagesse et de morale, tandis que pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est la vie sur terre. Eh bien, tout dépend de savoir si c'est à l'époque où le Beth Amikdash existe, la Shrina sur terre, ou pas. Quand le Beth Amikdash est construit, la vie de ce monde a un sens. Quand c'est l'exil, la vie de ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une période intermédiaire, puisque nous sommes revenus sur notre terre, mais que la Shekhina est en train de revenir graduellement, mais elle n'est pas encore totalement présente. En tout cas, donc, j'insiste sur ça pour vous dire qu'en fait, l'espérance monothéiste, c'est l'unité de la vie d'en haut et de la vie d'en bas. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans la Torah, on parle en premier lieu de la résurrection des morts. Vous savez que il y a dans la Mishnah une liste de gens qui sont très méchants et qui n'ont pas part au Olam Haba. Le Rambam aussi, il a une liste. Mais elle est exactement dans l'ordre inverse de celui de la Mishnah. Vous connaissez les 13 articles de foi de Rambam. C'est quoi le premier ? Dieu existe. Le deuxième ? Les 13 articles de foi, eh bien, c'est les 13 principes que certains disent tous les matins. C'est les 13 principes qui sont le fondement de toute la Torah. Qui sont, on les retrouve dans le Yigdal, par exemple, dans certains Sidourim après la prière, etc. Alors, ça a été écrit par Maïmonide. Alors, le premier, c'est l'existence de Dieu. Le deuxième, c'est qu'il n'a pas de corps. Le troisième, c'est qu'il est un. Le quatrième, c'est qu'il a il y a la providence. Cinquième, c'est qu'il prophétise. Il donne la prophétie aux prophètes, etc., etc. D'accord ? Et puis, le douzième, la venue du Mashiach. Et le treizième, la résurrection des morts. Donc, la résurrection des morts, dans l'ordre logique présenté par le Rambam, elle vient en dernier. N'est-ce pas ? Il y a une raison à cela, parce que c'est un ordre logique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait résurrection des morts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ressuscite. Donc, il faut d'abord que Dieu existe. C'est-à-dire, Dieu existe, donc la résurrection des morts est possible. D'accord ? C'est l'ordre de Rambam. Tandis que dans la Mishnah, c'est le contraire. La Mishnah nous dit, qui c'est qui n'a pas part au Olam Haba ? Le premier en liste, celui qui nie la résurrection des morts. Et puis après, celui qui nie la révélation de la Torah. Et puis en dernier, celui qui nie l'existence de Dieu, le Apikoros. Vous voyez que la Mishnah va exactement dans le sens inverse. D'accord ? C'est-à-dire que la chose la plus importante pour nos maîtres de la Mishnah, ce n'est pas que Dieu existe, c'est d'abord qu'il ressuscite les morts. On pourrait dire à la limite, si Dieu existe mais qu'il ne sait pas ressusciter les morts, ça sert à quoi ? À quoi sert qu'il existe s'il ne sait pas ressusciter les morts ? Mais s'il ressuscite les morts, il m'intéresse. Alors je veux savoir aussi s'il existe. D'accord ? Et pourquoi c'est tellement important la résurrection des morts ? Parce que si les morts ne ressuscitent pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de participation du corps à la vie de l'âme, ça veut dire que la force la plus puissante dans le monde, c'est la mort. Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il y a encore avec ce verre-là ? C'est fini, là ? Non. La force, c'est quand on se demande qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans le monde ? Les ouragans, les rayonnements cosmiques, la particule divine, la gravitation, Maccabi Tel Aviv, ou bien la mort. Hein ? Bon, eh bien, disons que si on réfléchit bien, dans la conception habituelle qu'ont les gens de ce qui se passe sur Terre, c'est la mort qui est le plus fort. La preuve, c'est que finalement, toute chose disparaît. Donc c'est le grand Dieu, c'est la mort, et c'est tout à fait contraire à l'idée que se fait le judaïsme de la divinité, qui est la vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Chaya Olamim, celui qui donne la vie au monde. Et donc, il est intolérable pour une conscience monothéiste, en tout cas, d'imaginer que la mort serait le plus fort. Donc la résurrection des morts est indispensable, ce qu'il fallait démontrer. D'accord ? Non.
Ah, c'est pour ça que nous on a dit qu'il y a la résurrection des morts pour qu'il y ait encore un. Ah, yes.
Génial. Bon, maintenant donc nous continuons. Cependant, jusqu'à ce que ça se passe, cette réconciliation du monde spirituel et du monde matériel, qui s'exprimera un jour par la résurrection des morts, de quelle manière ça se passe exactement, c'est difficile à savoir, parce que ce n'est pas une chose que nous avons vécue. Nous n'avons jamais vécu une vie qui ne soit pas le contraire de la mort, mais une vie qui soit par elle-même la vie. Ça, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas l'expérience, seulement l'intuition. Et pour l'instant, il y a la mort. Effectivement, la mort. Alors, pour savoir, est-ce que c'est quelque chose... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un scandale. Mais, il faut donc lutter contre la mort. Il y a différentes manières de le faire. Le Rav Kook parle de toute une stratégie de la victoire sur la mort. Tout d'abord, que le bon Dieu, il vous l'allonge. C'est-à-dire, la longue vie. C'est ça que la Torah parle souvent comme bénédiction, que ta vie soit longue. Une longue vie. Et puis qu'on surmonte les maladies et tout le reste. Mais c'est insuffisant. Il y a tout d'abord la première victoire, dit le Rav Kook, c'est la victoire contre la peur que la mort inspire. C'est-à-dire, dit le Rav Kook, l'impureté de la mort, l'impureté qui est liée à la mort, c'est le mensonge que la mort porte en elle. Tum ato hishikro. Son impureté réside dans son mensonge. Parce que on considère comme une catastrophe, comme une disparition, ce qui n'est plus qu'une surabondance de vie. C'est comme par exemple, si vous disiez par exemple à un enfant qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il y a une vie après la naissance? Alors, vous savez, on raconte un débat comme ça, c'est Rav Tokatchinsky qui raconte ça, c'est, il y a deux jumeaux dans le ventre. Le Rav Yechiel Meichal Tokatchinsky. Tokatchinsky. C'est pas un nom séfarade.
Non.
Ouais. Alors, dans son livre Gesher Achaim, il explique la chose suivante. Il dit, il y a deux jumeaux qui discutent entre eux, dans le ventre de leur mère, de savoir s'il y a une vie après la naissance. Celui qui croit en la vie après la naissance, il dit à son copain, tu sais, il y a une vie plus abondante, plus intéressante après la naissance. Alors l'autre qui est un philosophe, il dit, mais ça ne va pas la tête. Il n'y a pas de cordon ombilical, tout d'abord. Pas de cordon ombilical, comment est-ce qu'on va s'alimenter? À part ça, là-bas, il n'y a pas de liquide amniotique, il y a là-bas de l'air, on va étouffer. Sans parler de la température qui est très basse. Ici, c'est 37 degrés, tandis que là-bas, c'est 15 degrés, on va crever de froid. Et puis là-bas, il y a des objets durs et mous, etc. On va être blessé, on ne pourra pas tenir plus de 3 secondes. Et puis la preuve encore, c'est que tout ce qui disparaît par ce trou qu'on voit en bas ne revient jamais. Et puis après 9 mois, vient le moment de sortir. Alors celui qui croit en la vie après la naissance sort. Et tout le monde dit, comme il est mignon, il ressemble à sa grand-mère. Et tandis que celui qui n'y croit pas reste, il dit, moi je ne suis pas fou, je reste là. D'accord ? De même, on peut dire, mais la vérité, c'est qu'il a raison, le mécréant, celui qui ne croit pas en la vie après la naissance. Parce que la vie après la naissance, c'est quelque chose dont il n'a pas idée. La manière dont c'est vécu est quelque chose de totalement étranger à sa conception. Donc, par rapport à ce qu'il vit, c'est effectivement une disparition. Mais, il doit avoir ce qu'on appelle la confiance. La confiance que la vie continue. On peut dire que, d'une certaine manière, émouna et optimisme, c'est pratiquement la même chose. D'accord ? Il y avait un goy du nom de Albert Camus. Vous avez entendu parler de lui ? Bon. Oui ? Un philosophe de l'absurde. Dans son livre sur la peste, moi je ne connais pas les blagues, moi je n'ai pas le sens de l'humour. Et donc dans son livre La peste, il explique qu'en fait ça ne sert à rien de lutter contre la peste parce que de toute manière c'est une épidémie qui est indomptable. Mais malgré tout il faut s'occuper des malades. Et puis un jour la peste s'arrêtera de manière aussi absurde qu'elle a commencé. N'est-ce pas ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Albert Camus ? Est-ce qu'Albert Camus est un homme dénué d'optimisme ou pas ? A priori, il est totalement dénué d'optimisme. Il semble dire qu'il n'y a pas d'espoir. D'un autre côté, il dit oui, mais il faut se comporter comme s'il y en avait un. Ça veut donc dire qu'il a l'espoir, mais il ne sait pas comment le formuler. Vous voyez, c'est que quand quelqu'un dit je ne crois pas à la résurrection des morts, ce n'est pas toujours sa déclaration qui dit ce en quoi il croit. S'il est réellement optimiste, ça veut dire que malgré lui, il croit à la résurrection des morts, même s'il le nie. Il y a une histoire très belle, j'ai entendu dire, c'est... Vous connaissez le Rav Elbaz de la Yeshiva au Rahaïm? Alors, le Rav Ruven Elbaz, passé dans la rue, il entendait comme ça deux personnes qui discutaient entre elles de savoir s'il y a la résurrection des morts ou pas. Il y en a qui dit, mais bien sûr, il y a la résurrection des morts. Et le dit, mais ça va pas, c'est une légende, c'est un mythe inventé par les rabbins, tu crois pas quand même des choses pareilles. C'est évident qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Le Rav Elbaz passe et il dit, ah, tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, tu n'y participeras pas. Alors, type très vexé, comment tu me... t'as mes calèles aussi, tu m'insultes. Pourquoi c'est une insulte? Il n'y croit pas, donc il ne veut pas y être. Ça veut dire qu'il ne veut pas y être. Ça veut dire qu'en vérité, il veut y être, mais il veut comprendre. Et souvent, les déclarations de Emouna, pas Emouna, c'est très différent de la formulation consciente qu'ont les gens de cela. Et donc, la vie et la mort, en fait, la vie, c'est le début d'une vie encore plus forte. On peut dire effectivement, comme tu as voulu dire tout à l'heure, qu'il y a un surplus de vie qui fait que dans l'état actuel de nos capacités, nous ne sommes pas capables de recevoir ce surplus de vie et de rester vivants. Donc nous recevons ce surplus de vie en mourant. Mais l'état normal, ça serait de recevoir ce surplus de vie et de vivre. Vous comprenez? Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'idéalisation de la mort, mais pour l'instant, effectivement, il y a une progression. Alors pourquoi est-ce qu'on prend le deuil? Si c'est vrai ce que je vous dis là. On devait être tout content. Chouette, il est mort. Il y en a qui le pensent d'ailleurs. Il y en a qui, justement, précisément, le pensent. Non. Non, tout simplement parce que c'est humain. C'est humain. Le deuil est quelque chose d'humain. D'accord? Mais il est interdit de prendre un deuil trop longtemps aussi. C'est interdit. C'est-à-dire parce que c'est vrai qu'il y a une place pour le sentiment que nous inspire l'horreur de la mort. Et si on ne veut pas être un cynique, il faut donc prendre le deuil. Mais d'un autre côté, il y a une limite à cette place qui est accordée au sentiment. Nous avons également la connaissance, et intellectuelle, de Mouna, etc., qu'il y a une prolongation de la vie. Jusque-là, vous me suivez?
Oui, c'est-à-dire qu'on l'autorise à aller contre la Torah.
Oui, exactement. La Torah nous autorise à aller contre elle, donc ça fait partie de, ça, de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un principe général et il y a une application en particulier. Oui.
J'ai pas compris. C'est l'histoire des deux jumeaux là dans le ventre.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a eu raison au final. Parce que il y en a un, il est resté dedans.
Il est sorti.
Les deux ont raison.
Ouais, mais celui qui sort, c'est la parabole, c'est celui qui meurt aussi.
Et oui, absolument.
Ça veut dire quoi?
Ouais, ça veut dire qu'il continue à vivre. Et donc les deux ont raison.
Donc ça veut dire qu'il vit encore plus grand.
Oui, bien sûr. Les deux ont raison. D'accord? Alors, je voudrais vous expliquer ici un minhag qu'ont nos frères Ashkenaz. Nos frères Ashkenaz. Hein? Je sais pas comment vous l'avez
suivi. Non, ils pleurent avec le bébé Inès, prend Patrice.
Oui, tu m'as entendu parler de ça déjà?
Non,
je vais vous expliquer. C'est pas vraiment comme ça. Il y a un minhag chez nos frères Ashkenaz qu'on appelle le Shulem Zucher. Shulem Zucher, ça vient de l'hébreu Shalom Zachar. C'est-à-dire bienvenue au mâle. Quand il y a un enfant mâle qui naît, le premier Shabbat après sa naissance, on fait une petite fête. Après le repas de Shabbat, on invite les gens et on vient manger là-bas des aliments ronds. Arves, comme on dit en yiddish. Et c'est aujourd'hui, l'habitude, c'est de prendre des pois chiches. Les pois chiches, c'est ça qu'on appelle les arves. Pois chiches cuits comme ça. Pourquoi c'est important? Les aliments ronds, c'est ce qu'on mange quand on est en deuil. Un aliment de deuil. Alors, on est tout content qu'il y ait un enfant qui soit né, alors on fait un repas de deuil. Alors, c'est quoi ce repas de deuil? Eh bien, c'est un repas de consolation, dit. C'est pour consoler la Neshama d'être morte. Puisqu'elle est tombée ici. C'est donc une question de mort. Comment vous expliquer ça? C'est regarder dans l'histoire du Gan Eden. Dieu dit à l'homme, attention, si tu manges de ça, le jour même, tu meurs. Et il a mangé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il est mort le même jour. Comment? Non, il est mort le jour même. Comment cela? Ben, il est sorti du jardin d'Éden, ça s'appelle mourir. C'est-à-dire baisser le niveau de la vie, ça s'appelle mourir. Ce n'est pas la disparition. C'est comme par exemple lorsque quelqu'un qui était riche devient pauvre. Alors la Guémara dit ça s'appelle mourir. Ani Chashuv Kamet. Ou quelqu'un qui était en bonne santé qui devient lépreux, ça s'appelle mourir. Et donc, passer du Gan Eden à notre monde, ça s'appelle mourir. C'est-à-dire, c'est tomber dans la tombe. Par exemple, la Mishnah nous dit, jusqu'à quand une femme qui vient d'accoucher a le droit de manger le jour de Kippour? On dit Kol Zeman Shakever Patouar, tant que la tombe est ouverte. C'est quoi la tombe en question? Sa matrice. C'est-à-dire, ça s'appelle la tombe. C'est-à-dire, la Neshama est tombée à travers ça. Donc, il faut consoler la pauvre Neshama qui est arrivée sur terre, disent nos frères Ashkenaz, qui ont trouvé une occasion de s'attrister pour un événement heureux. Et. Oui, non, bien sûr. Vous savez qu'il y a une différence. Il y a un verset dans Kohelet qui dit Tov la lechet el bet avel, mi lechet el bet amishte. Il est meilleur d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Alors, il y a deux interprétations de ce verset. Il y a l'interprétation séfarade, l'interprétation ashkenaz. L'interprétation séfarade dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil, on mange mieux que dans un festin. Et tandis que l'interprétation ashkenaz, c'est si on peut être triste, pourquoi être joyeux? Et donc, on a trouvé donc cette histoire du repas de deuil qu'on fait le Shabbat pour se consoler. Mais la question qui est, d'ailleurs, il y a un enseignement à ce propos de Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay est un des élèves du Hari, qui explique comment est-ce que la Neshama descend dans ce monde. Vous savez comment elle descend dans ce monde? Eh bien, Rabbi Avraham Azoulay dit, elle écoute la tentation du serpent qui lui dit de manger l'arbre de la connaissance et elle tombe dans une tunique de peau. La tunique de peau, c'est le corps. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est raconté dans l'histoire du Jardin d'Éden dans Bereshit, c'est la naissance de chacun de nous. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe avec sa Neshama? Elle monte où? Au Gan Eden. Et le corps? Mais il reste dans la tombe. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est la mort, c'est la chute du corps dans un lieu de vitalité moins grand que ce qu'il y avait avant, tandis que la Neshama, elle remonte à son origine. Oui, elle revit, mais c'est dommage, parce qu'elle a commencé à aimer le corps, elle est tombée amoureuse du corps. D'accord? C'est ça que la mort, comme on dit tout à l'heure, c'est un amour espagnol. Oui?
Mais si c'est une mort, quand la Neshama tombe dans le corps...
Ça tient, oui.
Quand on meurt ici,
oui.
C'est aussi une chute de la vie.
Ah voilà ça. Ben oui, c'est le corps qui meurt, c'est pas la Neshama. On ne dit pas d'une Neshama qu'elle meurt. On dit du corps qu'il est mort.
Mais si, vous avez dit c'est une mort de la Neshama.
Quand elle vient ici, la naissance. La naissance est une mort de la Neshama, exactement.
Voilà. Mais donc quand on meurt, après ici c'est que le.
C'est le corps qui meurt, évidemment, puisqu'il quitte la Neshama.
Mais la Neshama, elle ne subit pas une chute.
Ben non, justement, au contraire.
Elle subit que des chutes tout le temps.
Pourquoi? Ah, s'il y a Gilgul, c'est qu'elle revient, mais c'est pas obligatoire.
Elle revient déjà de la chute qu'elle a vécue.
Ça a rapport à l'opinion des Gilgulim, mais c'est pas notre sujet actuellement. Ce que je veux dire, c'est que la question qui se pose, c'est alors pourquoi est-ce qu'on fait ça que pour les garçons et pas pour les filles?
Parce que les filles, elles peuvent donner naissance.
Oui.
Parce que la Neshama, si elle est proche de celle de Dieu,
c'est-à-dire que la femme n'est pas vraiment tombée. C'est-à-dire que si vous regardez dans le livre de Bereshit, il y a là-bas deux malédictions qui sont. Il y a une malédiction pour l'homme et une malédiction pour la femme. Je ne parle pas de la malédiction du serpent pour l'instant. La malédiction de l'homme, tu travailleras difficilement, d'accord? C'est à la sueur de ta face que tu travailleras la terre. Et puis il y a une malédiction pour la femme, tu enfanteras dans la douleur. Et puis après, la Torah nous raconte que l'homme a été renvoyé. L'homme a été renvoyé du Gan Eden pour travailler la terre dont il avait été pris. Il n'y a pas écrit que la femme a été renvoyée pour accoucher dans la douleur. Ça veut donc dire qu'elle n'a pas été renvoyée. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des femmes ici? Parce que les hommes sont là. Mais la véritable place de la femme, c'est dans le Gan Eden, et la véritable place de l'homme, c'est sur terre. Mais comme ça, on ne pourrait pas se marier, donc on fait des rencontres sur terre, et ça permet donc de faire la réunion du Gan Eden et du Olam Hazeh. Et ça, c'est un bon enseignement pour des Sheva Brachot. Si vous allez à des Sheva Brachot, vous direz, j'ai entendu du Rav Cherki que voilà. Alors, même vous n'êtes pas obligé de dire d'où ça vient. En général, on dit, je connais bien le Khatan, je connais bien la Kala. Enfin, ou bien, je ne connais pas la Kala, mais je connais le Khatan et inversement, un truc comme ça. Et de toute façon, je suis certain qu'ils feront une bonne maison pleine de Torah et tout ça. Sans parler des grands conseils donnés par tous les jeunes célibataires qui expliquent qu'est-ce que c'est que le mariage. Donc, c'est toujours comme ça dans les Sheva Brachot. C'est extrêmement amusant. Pourquoi je vous parlais de tout ça? Ah oui, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour les filles, parce qu'elles ne sont pas véritablement descendues ici. Elles sont ici, disons, bégrama. Elles sont entraînées par les garçons, mais elles ne sont pas vraiment à leur place. Et donc, tout ça, c'était des considérations intéressantes. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire autour de la mort et de la vie. Je vous souhaite une bonne vie. Shalom.